RMC, 14h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France. C'est la 18e étape aujourd'hui de la grande boucle qui se dirige tout droit vers Paris, ou presque tout droit. Il y aura encore quelques étapes pièges, notamment demain, dernière étape de montagne, et après-demain, contre-la-montre qui décidera du classement définitif, du classement général définitif de cette grande boucle 2018. Au programme aujourd'hui, 171 km à travers les départements du Sud-Ouest. On va passer dans les Hautes-Pyrénées. On vient de partir des Hautes-Pyrénées. On passera ensuite dans le Gers, dans les Landes, pour achever l'étape dans les Pyrénées-Atlantiques et cette ville de Pau qui est un haut lieu du Tour de France, puisque c'est la 76e fois de l'histoire que le Tour fait escale à Pau pour une étape habituellement réservée aux sprinters. Ce devrait être le cas une nouvelle fois aujourd'hui, même si d'autres catégories de coureurs et notamment les baroudeurs vont tenter de se faire la malle. C'est d'ailleurs le cas, puisque le départ a été donné il y a 2 minutes à peine de Trie-sur-Baïse, tout petit village d'un peu plus de 1000 habitants, et déjà les premières attaques des baroudeurs qui ont envie d'aller chercher cette étape et de fausser compagnie aux équipes de sprinteurs. On va vous parler de tout ça jusqu'à 18h. On va revenir également sur l'étape d'hier qui a vu beaucoup de choses importantes se dérouler dans ce Tour de France. La chute, ou plus exactement le déclin de Christopher Froome, la défaillance de Romain Bardet, la prise de pouvoir absolue de Geraint Thomas, et puis on s'intéressera et également on s'interrogera pour savoir si Geraint Thomas est déjà le vainqueur de ce Tour de France à quelques jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Pour évoquer tout cela, mon équipe est avec moi au grand complet, à commencer par Cyril Guimard. Bonjour monsieur Cyril.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Ça va, faire un petit tour dans la plaine avant de remonter en montagne, ça te plaît bien cette histoire-là?
Ouais, ça fait une petite rupture, et puis pour nous peut-être aussi de la récup, parce que les étapes de 65 bornes, c'est intense, hein, on a du mal à s'en remettre.
Hein. Oui, ça a été très intense effectivement, et ça a causé pas mal de défaillances. Fred Adam, lui aussi, est là aujourd'hui, va pouvoir repartir dans des longs top courses. Hein. Il va se passer des choses pendant 4 heures. Ça va Fred?
Oui, je vais avoir plus de 165 km de top course, c'est un régal. C'est l'étape reine pour moi.
Presque l'étape reine. Une étape de transition, c'est comme ça qu'on les appelle, même si en fin de Tour de France, ces étapes de transition peuvent réserver des surprises. On va voir ça également avec la moto RMC, Marco et son fidèle chauve aux grosses lunettes, j'ai nommé Pierre-Yves Leroux, qui a commencé à balancer quelques petits dossiers sur notre WhatsApp personnel. Ça ne restera pas impuni, cette histoire-là. Bonjour monsieur,
oui,
Leroux.
Cela dit, ça pourrait aussi, mon cher Christophe, bonjour, passer sur des réseaux un petit peu plus larges si tu m'attaques dès le début de la journée. Évidemment.
J'ai vu en tout cas que tu brillais de mille feux tout à l'heure, hein, lors des interviews d'avant-course, brillais de mille feux. Hein. J'espère que tu as mis ton casque pour éviter les coups de soleil. Hein.
Effectivement. Mais je pense que tu diffuseras rapidement cette belle interview de Romain Bardet au village ce matin avec des questions toujours pointues, évidemment. 32 degrés sur la route du Tour. Il fait un temps magnifique pour Marco qui peut évidemment mettre en avant un peu plus sa musculature auprès des jeunes filles qu'on voit sur le bord de la route, évidemment. Voilà. Alors il coupe son micro à ce moment-là, c'est dommage parce que si vous aviez les commentaires, évidemment, ça serait plus intéressant. Mais en tout cas, on va avoir une étape passionnante, on l'espère en tout cas, avec des baroudeurs qui semblent déjà essayer de quitter le peloton. Ça va être probablement le scénario comme d'habitude, et on verra si les équipes de sprinteurs derrière sont capables de rouler un petit peu. Et puis tout à l'heure, Christophe, je te propose une petite carte postale de toute cette région que nous allons traverser avec des lieux sympathiques.
Des lieux très très sympathiques. Il fait beau, il fait chaud sur la route du Tour de France. On n'a pas eu beaucoup de pluie, c'est le moins qu'on puisse dire depuis le départ de cette grande boucle il y a quasiment 3 semaines.
C'est l'intégral four.
C'est l'intégral four, tu as bien raison de signaler. Et ça va pas s'arrêter de sitôt, puisque le week-end s'annonce une nouvelle fois très chaud. Fred, nous sommes donc quasiment au départ de cette étape qui a été donnée il y a quelques minutes de Trie-sur-Baïse, je vous le disais, tout petit village d'un peu plus de 1000 habitants. Le Tour de France aime comme ça de temps en temps partir ou arriver dans de tout petits coins de France. Dès le départ de cette étape, donc des tentatives d'échapper. On va faire un premier top course, si tu as déjà réussi à avoir l'identité des coureurs qui ont décidé de s'échapper à l'avant du peloton. Le top course.
avec un Français dans ce groupe de fuyards, un groupe de 5 coureurs où il me semble apercevoir le grand belge de l'équipe anti-groupe Gobert, Guillaume Van Kersbulk, le flamand qui a attaqué dès le kilomètre zéro tout à l'heure à la sortie de Trie-sur-Baïse. On est en direction du département du Gers dans quelques instants. On vient d'y pénétrer même. Van Kersbulk, le belge, un Français, Thomas Bouda de l'équipe Direct Energy, coureur originaire de Bordeaux, des environs bordelais, du vignoble très exactement. Il sent l'air du sud-ouest venir lui chatouiller les narines, lui qui est un bon sprinter mais qui semble plafonner un petit peu dans les sprints massifs. Du coup, il tente de s'échapper de loin, Thomas Bouda. Également présent, le néerlandais de la formation Quickstep, Nicky Terpstra, l'ancien vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Et il y a deux coureurs de l'équipe Mitchelton Scott, il me semble apercevoir, j'en suis quasiment certain, Matthew Eman, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix lui aussi, et puis peut-être Michael Hepburn, l'Australien. En tout cas, deux coureurs de cette formation australienne, 5 hommes à l'avant avec 12 secondes d'avance sur un peloton d'où certains cherchent encore à s'échapper. On ne laisse pas du tout filer, on sent que cette échappée pourrait être la bonne en direction de Pau, où effectivement les baroudeurs pourraient aller voler la vedette, souffler la politesse aux sprinteurs. Il reste peu de sprinteurs aujourd'hui, 171 km aujourd'hui, 13 secondes d'avance pour un groupe de 5 hommes.
Peu de sprinteurs et peu d'étapes qui s'achèveront au sprint aujourd'hui. Celle-ci est désignée pour les sprinteurs, Cyril. Et puis il restera la dernière dimanche sur les Champs-Élysées, l'étape reine pour les sprinteurs, même si on fait souvent plus la fête au maillot jaune ce jour-là. Mais les sprinteurs restent très attachés à la tradition du sprint sur les Champs-Élysées. Mais Pau aussi, hein, Pau est une véritable arrivée pour les sprinteurs. Et ça fait partie des grands sprints du Tour de France, Pau.
Oui, Pau, tout dépend dans quel sens tourne le Tour de France, mais si il tourne à l'envers des aiguilles d'une montre, on arrive en règle générale de la Bretagne en passant par les Charentes et Bordeaux, et donc la dernière étape de plat arrive à Bordeaux et nous à Pau, je veux dire, et on a souvent eu effectivement des arrivées au sprint à Pau. Puis quand on arrive par la haute montagne, là c'est une autre histoire, ce sont les grimpeurs qui s'imposent, mais là on est dans le sens de la montagne, c'est-à-dire des Pyrénées, mais on fait une boucle au-dessus des Pyrénées sans toucher à une seule montagne. Ce sera pour demain, la montagne. Donc, une arrivée au sprint, oui, ça me paraît évident.
Il faut le vouloir quand même pour éviter les montagnes quand on est à Pau, pour une arrivée d'étape à Pau. Là, les organisateurs ont décidé de couper dans cette trilogie des étapes pyrénéennes. Alors, est-ce que c'est pas un regret finalement pour vous quand on voit le terrain de jeu propice à tous les grimpeurs autour de nous? On est un peu frustré de voir ça, même si évidemment, dans le Tour de France, il faut donner à manger à tout le monde, et notamment aux sprinteurs. Mais enfin, ils ont bien eu à becter quand même depuis le départ de ce Tour, Cyril.
Oui, mais c'est les mêmes qui ont gagné des étapes. Et d'ailleurs, parmi ceux qui ont gagné des étapes, il y en a qui ne sont plus sur ce Tour de France, ce qui peut ouvrir la porte à des sprinteurs qui étaient bridés depuis le début de ce Tour de France, et entre autres par Gaviria. Eh bien, aujourd'hui, c'est la possibilité, déjà pour les Français, pour Arnaud Demare de s'imposer, ou tout simplement Christophe Laporte, qui pour l'instant n'a pas réussi à s'immiscer ne serait-ce que sur le podium des étapes. Et puis il y a Christophe qui rêve aussi de
Alexander
de victoire.
Christophe, le Norvégien.
Le Norvégien. Vous avez De Gent Kolb qui aimerait bien aussi franchir la ligne en vainqueur. Donc une étape, ça sera difficile de piéger quand même les équipes où il reste des sprinteurs aujourd'hui.
Est-ce que vous savez pourquoi les organisateurs du Tour ont scindé ce bloc pyrénéen en deux et mis cette étape le jeudi, alors qu'on aurait pu faire, ce qui est habituel, notamment dans les Alpes et les Pyrénées, une trilogie alpestre ou pyrénéenne? Est-ce que vous le savez, messieurs?
Eh bien non, on va peut-être le savoir.
Si vous lisez Le Monde daté d'aujourd'hui, vous apprendrez que... oui, c'est bien d'aujourd'hui. Vous apprendrez qu'initialement le Tour de France devait partir une semaine plus tôt, sauf que l'Union Cycliste Internationale a décalé à cause de la conséquence de la présence de la Coupe du Monde de football en même temps. Du coup, ce qui devait être une trilogie pyrénéenne s'est heurté au fait que l'étape prévue au Pays Basque le samedi en ligne allait être aller être en concurrence avec les fêtes de Bayonne samedi à venir. Samedi après-demain.
Hein. Oui, les fêtes de Bayonne qui ont débuté hier ou avant-hier, je crois, et qui effectivement enregistrent le plus de visiteurs le week-end, donc samedi et dimanche.
Alors, il y aura un contre-la-montre samedi, mais il était impossible d'envisager mettre une étape en ligne le vendredi. Le vendredi, en plus du contre-la-montre de samedi, du coup, on a anticipé, on est venu faire une étape en ligne le jeudi afin de vendredi remonter dans les montagnes et ne pas se heurter à la concurrence des fêtes de Bayonne en allant faire une nouvelle étape de plat vers le sud-ouest.
C'est pour qu'il y ait des spectateurs sur le bord des routes et qu'ils ne soient pas tous aux fêtes de Bayonne qu'on a fait cette étape supplémentaire.
Et peut-être pour ne pas occuper les routes qui seront bien occupées dans le sud-ouest sur ce week-end, vendredi, samedi, dimanche.
Et les forces de sécurité.
Il y a beaucoup de forces de sécurité qui sont présentes à Bayonne, qui est la plus grande fête en France et qui se déroule donc jusqu'à dimanche et qui a déjà débuté en fanfare. Mais il y aura quand même, j'imagine, des supporters basques demain dans l'école pyrénéen. On en a vu déjà pas mal hier, les basques espagnols notamment, hein, Fred, qui sont férus de cyclisme et qui viennent encourager leurs coureurs, notamment Mikel Landa, même si celui-ci n'a pas encore remporté d'étape sur les routes de ce Tour de France 2018. Donc, direction Pau, on va faire peut-être la carte postale de Pierre-Yves, s'il est prêt pour la carte postale sur la moto RMC.
Oui, je suis toujours prêt. Prêt, Christophe, bien sûr. Hein, surtout que je viens d'apprendre que Fred Adam lisait Le Monde, alors vraiment, ça me fait plaisir. Ça m'a réveillé sur ce coup-là. Départ de Trie-sur-Baïse. Départ de Trie-sur-Baïse ce matin, cette bastide du 14e siècle. Magnifique. D'ailleurs, ce village s'appelait Trie, tout simplement, jusqu'en 1966. Donc, c'est assez récent, cette appellation. Et puis, depuis 1975, à la mi-août, ça sera le 12 août prochain, il y a la fameuse pourcaillade, messieurs, la fête du cochon, avec son célèbre concours du cri du cochon, qui a été abandonné, d'ailleurs, pendant une dizaine d'années, parce qu'il n'y avait plus assez de bénévoles, mais ça va avoir lieu cette année. Donc, je compte sur vous, évidemment, pour imiter le cochon qui mange, la truie qui accouche, le goret qui tète, ou encore le cochon en rut. C'est peut-être là que vous serez le plus fort, à moins que ça soit sur le cochon qu'on égorge. Vous avez toutes les possibilités. En tout cas, cette fête aura lieu le 12 août et ça sera complété par la course de porcelet et le concours du plus gros mangeur de boudin. Là aussi, je pense que vous pourriez briller. Et puis, un peu plus loin, on sera du côté de Madiran. Vous connaissez bien sûr cette commune avec son vin célèbre. Ça sera au kilomètre 53 tout à l'heure, 1300 hectares de vin rouge avec ce vin de Metz à l'origine, parce que c'était au milieu du 11e siècle qu'il a été diffusé et connu grâce aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passait sur ces routes du côté de Madiran. Faut pas oublier, à côté de Madiran, le pacherin du Vic-Bil. C'est un vin blanc qui soit moelleux ou sec, qui est très très bon aussi. C'est parfait si vous n'avez pas de Jurançon de côté. La production du Jurançon, c'est un peu plus près de Pau, mais toujours avec modération, évidemment. Et puis on passera aussi à Eugénie-les-Bains. Et je ne sais pas si vous savez que Eugénie-les-Bains porte ce nom grâce à Eugénie de Montijo, l'épouse de Napoléon III, qui est décédée en 1920 et qui a été la dernière femme à avoir eu en France les prérogatives d'un chef d'État, en fait, pendant la régence de 1870. C'était une très belle femme, magnifique, qui entraînait évidemment quelques jalousies. Et d'ailleurs, il y a un épigramme célèbre qui disait « Montijo, plus belle que sage, de l'empereur comble les vœux. Ce soir, s'il trouve un pucelage, c'est que la belle en avait deux. » Voilà, parfois, on peut piquer avec la poésie. Et c'est arrivé à Pau ce soir. Eh bien, je ne sais pas si on aura affaire à des poètes sprinteurs, mais ça devrait être chaud, évidemment, comme sur la route du Tour tout à l'heure.
Alors, je ne sais pas si on a des poètes, mais Cyril Guimard est très fort dans le cri de cochon. Tenez, écoutez ça. Pas mal, Cyril. Pas mal.
La place de champion du monde est assurée.
Le champion du monde, c'était notre ancien confrère du Parisien, Jean Cormier, qui était un grand spécialiste du cri de cochon et qui le réalisait à merveille et qui se signalait d'ailleurs lorsqu'il arrivait par ce cri de cochon. On l'embrasse, Jean, s'il nous écoute. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette belle carte postale. Il est toujours aussi érudit, notre ami Pierre-Yves Leroux. 155 km de l'arrivée. Fred, on va faire un nouveau petit top course. Est-ce que la situation s'est décantée en tête de course?
toujours 5 hommes en tête, me semble-t-il, et ces coureurs sont bel et bien Thomas Bouda, le français de l'équipe Direct Energy, Guillaume Van Kersbuck, le grand belge de l'équipe Wanty Groupe Gobert, le néerlandais Nicky Terpstra, vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres, un autre vainqueur de Paris-Roubaix, l'australien Matthew Heyman de l'équipe Mitchelton Scott. Ils sont deux de la formation australienne Mitchelton Scott, puisque Heyman est accompagné dans ce groupe de tête de son coéquipier Luke Durbridge, un ancien pistard poursuiteur, tout comme un certain maillot jaune du Tour de France. On vous rappelle que Geraint Thomas, le britannique de l'équipe Sky, a le maillot jaune bien accroché aux épaules. C'est lui le leader du classement général. Il est bien au chaud dans le peloton et observe l'avant-garde du peloton être agité par de nombreuses attaques depuis le départ de Trissur-Baïse il y a quelques instants. Il reste 155 km à parcourir et le groupe de tête composé de 5 hommes, dont le français Thomas Bouda, compte une avance réduite à 25 secondes parce que derrière, de nombreux coureurs tentent leur chance, dont notamment le néerlandais Sepp van Marck en ce moment, le spécialiste des classiques. Les Groupama FDJ sont très actifs à l'avant pour contrôler ces échappées. Ils ne veulent pas manifestement laisser partir n'importe qui dans l'échappée. Les Groupama FDJ qui devraient travailler toute la journée aujourd'hui en faveur de leur sprinter, toujours Fanny sur ce tour. J'ai nommé l'ancien champion de France, Arnaud Démare.
Et oui, et qui a eu quelques soucis dans les deux précédentes étapes en montagne, qui a joué avec les délais, Arnaud Démare, mais qui a réussi à rentrer dans les délais et qui est ambitieux à la veille de cette étape aujourd'hui, plus exactement à Pau et dimanche pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. 5 hommes en tête, Cyril, avec un seul représentant d'une équipe française. Surprenant quand même que la Cofidis et d'autres formations n'aient pas mis du monde à l'avant. Il n'y a que Bouda qui est représenté de la formation Direct Energy. Il faut rappeler que les équipes françaises sont toujours Fanny sur les routes de ce Tour de France.
Oui, mais c'est logique de ne pas avoir de Cofidis dans la mesure où ils vont tout jouer sur Christophe Laporte en cas d'arrivée au sprint.
C'est un peu risqué quand même, non ? Il est quand même pas au top, il est juste en dessous.
Ouais, mais est-ce qu'on a plus de chances de gagner en partant dans une échappée qui n'arrivera pas ?
Tu penses que ça n'arrivera pas ?
Non.
Souvent, en dernière semaine, il y a quand même plus de chances pour les échapper.
Mais pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui, d'accord. Non. Tu as décidé que c'était comme ça, il y aura
non,
pas
mais hier, c'était une étape facile, il y avait 3 petits cols, 65 km.
Une étape facile.
Tous les équipiers sont frais et motivés pour cette étape de 171 km. Et donc, il y a encore beaucoup trop d'équipes de sprinters qui vont contrôler la course. Alors, ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est si l'équipe de Peter Sagan, l'équipe Brun va contrôler dans la mesure où Peter Sagan est peut-être un petit peu handicapé par sa violente chute hier. Lui, pourtant virtuose sur son vélo, a fait vol par terre.
Ouais. Fred, est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs de Peter Sagan ? Il a passé, je crois, des radios hier. Il souffrait du poignet et du fessier. A priori, il n'y a pas de fracture. C'est ce que nous disait son tweet hier soir, hein, puisqu'il a tweeté. Mais bon, il est un peu amoché quand même, le grand maillot vert, champion du monde, triple champion du monde.
Amoché, mais depuis quand Hulk souffre de petites contusions ? Il a en tout cas terminé, c'est vrai, cette étape avec le cuissard arraché, le maillot également en lambeaux. Il a passé des examens juste après l'arrivée. Effectivement, il souffrait du poignet notamment, mais pas de fracture. Et il se dit confiant pour les 4 dernières étapes du Tour. Lui qui est largement en tête du classement du maillot vert, ce fameux classement par points qu'il a déjà remporté à 5 reprises. Il vise le record à égalité avec l'allemand Eric Zabel, un record qui lui permettrait de ramener ce maillot vert pour la 6e fois sur les Champs-Élysées. On ne le voit pas, même s'il n'est pas capable de s'imposer sur les 4 dernières étapes, si l'on inclut le contre-la-montre. On ne le voit pas lâcher quoi que ce soit d'ici les Champs-Élysées. Il a maillot vert gagné et il sait s'accrocher, le bougre.
Cyril, quand on a été victime d'une chute importante, comme ça a été le cas donc pour Peter Sagan, on se ressent pas trop des effets de la chute le lendemain, même s'il n'y a pas de fracture, il est quand même un peu éraflé de partout, notre ami Peter.
Oui, on sait que les courbatures, c'est-à-dire les conséquences de la chute, et là pas au niveau, on va dire, des écorchures ou des plaies, sur le plan musculaire, tout le corps est traumatisé, et c'est surtout le deuxième jour, c'est-à-dire c'est plutôt demain que les conséquences à ce niveau-là seront importantes. Aujourd'hui, c'est une étape qui est relativement simple pour lui. Il va rester tranquillement, bien sûr, au milieu du peloton pour faire le moins d'efforts possible. Et puis, je suis pas certain qu'ils viennent faire le sprint. Il faut vraiment qu'ils se sentent bien. Parce qu'après la chute d'hier, c'est pas la peine de reprendre des risques. Et surtout qu'on peut avoir quelques appréhensions. Et quand on a peur, c'est plutôt là qu'on chute dans un sprint que lorsque l'on n'a pas peur. Donc, c'est pas évident qu'il aille faire le sprint. En plus, il en a pas besoin pour ramener le maillot vert à Paris.
Oui, mais on sait qu'il est c'est un cannibale, Peter Sagan. Il a toujours faim de victoire et de succès.
Oui, trois étapes sur le Tour 2018, 11 victoires sur le Tour depuis le début de sa carrière.
Oui, alors, c'est quand même aussi un garçon qui sait faire la part des choses et qui sait ce qu'il est important de faire et à quel moment il faut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas important de prendre le risque d'aller faire le sprint dans la mesure où on sait que ce maillot vert, plus personne peut lui le retirer d'ici l'arrivée. Donc, il a aucune raison d'aller prendre des risques dans ce sprint.
Et pour l'instant, effectivement, les coéquipiers de Peter Sagan ne sont pas à l'avant de la course, Fred. Ils n'assurent pas le tempo derrière pour limiter l'avance de l'échappée. Non. D'ailleurs, celle-ci est très minime, cette avance.
Oui, 17 secondes d'avance seulement pour les 5 audacieux qui ont réussi à sortir dès le kilomètre 0. On vous rappelle la présence du Belge Van Kersbuk à l'initiative de cette échappée, du Français Thomas Bouda, que l'on voyait particulièrement prêt à sauter sur tout ce qui bougeait lors du départ réel, cette courte portion entre le fictif et le réel où les coureurs viennent se positionner derrière la voiture rouge de la direction de course. Thomas Bouda a sauté sur le premier coup. Ils sont donc 5, le Belge Van Kersbuk, le Français Bouda, le Néerlandais Nicky Terpstra et les 2 coureurs australiens de la formation Mitchelton Scott, les grands gabarits que sont Matthew Heyman et Luke Durbridge, d'excellents rouleurs. 17 secondes d'avance, vous parliez des coéquipiers de Peter Sagan chez Bora. Il laisse pour l'instant les Groupama FDJ d'Arnaud Démare travailler à l'avant et contrôler. On voit beaucoup de maillots roses Education First tenter leur chance. Oui. Qu'il s'appelle Tom Scully, néo-zélandais, Seb Van Mark, néerlandais, ou à l'instant, la lanterne rouge qui, ça y est, après sa chute sur la première étape en Vendée, semble s'être remise de sa fracture de l'omoplate, lui qui vit un conte de fées, alors bien sûr avec les souffrances que sa blessure induit lors des étapes de montagne notamment, Lawson Craddock, à l'attaque pour la première fois depuis le début du tour et à l'instant relayé par son équipier Seb Van Mark, Arthur Vichot et Anthony Turgis tentent à leur tour de fausser compagnie au peloton. Vous le voyez, début d'étape très agité. Ce n'est pas vraiment une étape de transition pour l'instant.
Anthony Turgis, que l'on reçoit tous les soirs dans l'intégral tour, dans le débrief entre 19h et 20h, qui nous confiait hier, Cyril, qu'il était en grande forme et que plus les jours passaient, plus il se sentait en forme. C'est étonnant quand même. Après les efforts consentis par les coureurs depuis le départ en Vendée, ben voilà, au bout de 3 semaines, il y en a qui sont de mieux en mieux.
Oui, mais ça n'est pas spécial à lui. La plupart des coureurs, s'ils sont en bonne santé, qu'ils sont bien hydratés, qu'ils mangent normalement, donc qu'ils refont leur réserve de glycogène tous les jours, s'ils ont perdu un kilo, ce qui est tout à fait logique, si la récupération est bonne, il n'y a pas de raison que l'on ne soit pas aussi bien la dernière semaine que la première.
Ok, 14h28 sur RMC, 147 km de l'arrivée, 5 hommes en tête qui possèdent désormais 24 secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Un seul Français dans ce groupe de 5, Thomas Bouda, le coureur de la formation Direct Energy. À tout de suite pour la suite de cette étape, 18e étape en direction de Pau.
RMC, Intégral Tour. Christophe Cessieux.
La Colombia viene la victoria tan esperada, metiéndose en olor de multitudes y buena posición sobre la misma. Se la merecía el boyacense, se la merecía el colombiano. Observen ustedes, mira para adelante, se para en danse sobre su bicicleta. 25 metros, lo tengo en la mira. Va a ganar la etapa, lo tengo en la mira. Últimos metros, levanta y un beso al Dios de la humanidad para decir aquí estoy yo.
Voilà le Frédéric Adam, colombien, hier soir en pleine extase au moment où Nairo Quintana franchissait la ligne en vainqueur de la 17e étape du Tour de France. Cette étape qui arrivait au col du Porté, la Colombie en fait. Fred, il y a des leçons à retenir dans le commentaire colombien.
Ça part un peu n'importe comment quand même. ça nous arrive à tous, mais c'est vrai qu'on en discutait hier à une heure avancée de la nuit, il faut bien le dire, hier soir à notre arrivée à l'hôtel. l'hôtel tous ensemble, l'équipe RMC. Ces commentateurs colombiens sont très très spectaculaires, il n'y a pas de souci, hein, mais notre célèbre flamme rouge qui nous lance dans de longues chevauchées vocales parfois commence pour eux aux 2 km par exemple lorsqu'un colombien
il est tout seul, hein, il est tout seul pour commenter,
il
n'y
a pas de relais effectivement. Il fait le Yelenaidam ou le Van der Arden des années 80. C'est un finisseur, ce radio reporter colombien. Effectivement, il est capable d'accélérer très fort tout seul à 2 km de la ligne d'arrivée, en particulier évidemment lorsque l'un de ses ressortissants nationaux, un colombien, s'en va pour la victoire d'étape. Cela n'était pas arrivé depuis le début du tour avec la double victoire de Fernando Gaviria au sprint, et puis pour le grimpeur Nairo Quintana, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants peut-être. Cela n'était plus arrivé depuis 5 ans, la victoire du grimpeur colombien, alors maillot blanc de meilleur jeune sur le dos. C'était au Semnos, sur les hauteurs d'Annecy, Nairo Quintana qui a réveillé la Colombie hier en direction du col du Portet. Nairo Quintana qui lui-même s'est réveillé 8e du classement général hier matin. Il s'est rapproché à la 5e place du général, enfin, mais c'est un peu tard, monsieur Nairo. Nairo Quintana qui a pour habitude d'être plutôt attentiste et de ne se lâcher que lorsque la partie est perdue, notamment en 3e semaine. Il l'a encore prouvé hier, et d'ailleurs ce n'est pas lui qui a attaqué au pied du col du Portet, c'est bel et bien Dan Martin, l'Irlandais, et Nairo Quintana n'a fait que suivre Dan Martin avant de le contrer. C'était bien vu, bien joué, puisqu'il remporte à 28 ans sa 2e étape sur les routes du Tour. Effectivement, sans critiquer ni stigmatiser les radio reporters colombiens, on disait tout à l'heure que c'était un peu n'importe quoi parce que ça ne parle pas toujours vélo. Si vous traduisez les propos de notre confrère reporter colombien, on entend qu'effectivement il parle de Quintana qui lève les bras en l'air pour remercier le dieu de l'humanité. Bon, ça va très très loin quand même, mais on est dans un pays où effectivement la foi est très très importante, et notamment le catholicisme. C'est un peu moins le cas dans nos sociétés, nos civilisations à nous.
Et la foi aussi pour ces coureurs cyclistes, Cyril, parce que c'est un véritable pays de vélo. La Colombie, on l'avait découvert en Europe dans les années 80 avec Lucho Herrera et d'autres coureurs, d'autres grimpeurs qui avaient révolutionné la façon de grimper dans le Tour de France. Et on voit que ça se poursuit, cette culture pour le vélo, parce que là il y a Nairo Quintana, mais il y en a un autre dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui s'appelle Bernal, qui hier a réalisé un sacré numéro dans la montée du col du Portet. Il est le coéquipier de Chris Froome et Geraint Thomas, il est le Benjamin du Tour de France, et on l'annonce déjà futur vainqueur dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc il y a la relève dans ce pays qui compte beaucoup de grimpeurs, très peu de sprinteurs, mais alors quand ils en ont un de sprinteur, c'est le meilleur, en l'occurrence Gaviria. Ils ont c'est rare d'ailleurs, hein, d'avoir des sprinteurs dans le pays.
C'est un vrai pays de vélo maintenant, puisqu'à une époque, on parlait tout à l'heure, il y a quelques années, ils ont aussi des sprinters. Alors qu'il y a 25 ans, des sprinters, on n'en avait pratiquement pas. Enfin, il n'y en avait pas du tout d'ailleurs. Et aujourd'hui, d'abord parce qu'ils ont mis aussi en place une école de la piste, il faut quand même le souligner, et qu'on retrouve dans les championnats du monde sur piste, aussi bien au niveau des femmes que des hommes, des Colombiens très, très, très performants. Et Gaviria d'ailleurs vient de la piste. Puis n'oublions pas quand même que l'an dernier, on a l'air de l'oublier, mais c'est vrai qu'il passe souvent inaperçu. Le deuxième du Tour de France était colombien, c'était Rigoberto Urán. Donc les Colombiens sont toujours présents sur le Tour, et par voie de conséquence, les médias y sont aussi. Et Quintana, avec sa victoire d'hier, a rappelé que les Colombiens restent des coureurs très compétitifs sur les grands tours, même si, et malheureusement pour lui, Rigoberto Urán cette année a été contraint à l'abandon.
Il n'était pas dans le coup, Rigoberto Urán, on le rappelle, dauphin de Christopher Froome l'an dernier sur les Champs-Élysées. La moto RMC, notre Colombien à nous, non, il n'est pas sur la moto, c'était Georges Quirino, notre Colombien. Il est dans la voiture en train de faire la sieste probablement, mais Pierre-Yves Leroux, lui, est bien réveillé en direction de Pau.
Certains font de l'hélico.
Oui,
tout à fait.
Qui font
très bien réveillé. On aura l'occasion d'en reparler, oh, évidemment. Christophe, nous sommes au cœur de Marciac, dont la spécialité, vous la connaissez, c'est le fameux festival Jazz in Marciac. Le peloton est en train de traverser cette localité. Est-ce que tu me permets de voler le top course pour une fois à Fred Adam? Je vais essayer de limiter,
ou
en tout cas de m'en approcher.
Qui te donne l'accord?
Ah, c'est gentil, merci beaucoup Fred. 1 minute 40, 1 minute 50 même presque d'avance pour le peloton, pour les échapper sur le peloton. C'est la bonne cette fois qui est partie. 5 hommes en tête: Guillaume Van Kersbulk, le français Thomas Bouda de l'équipe Direct Energy, un garçon formé sur la piste qui se retrouve dans sa région ici, pas très loin de Bordeaux. On en est encore un petit peu loin, mais on s'approche, il doit sentir un peu la maison. Ils sont derrière nous, ces échappés, avec également Nicky Terpstra, vainqueur du Tour des Flandres, vainqueur de Paris-Roubaix, tout comme Matthew Heyman qui est présent dans cette échappée avec son compère Luc Durbridge de l'équipe Mitchelton Scott. Ça s'entend bien et ces cinq-là sont partis pour une grande chevauchée jusqu'où, ou presque jusqu'à Pau peut-être. On verra si les équipes de sprinters sont capables de faire le boulot derrière.
Merci Pierre-Yves, tu voulais ajouter un mot?
Il prépare l'année prochaine Pierre-Yves, j'ai l'impression. Hein. Il est là l'auteur des top courses en 2019.
Il est possible qu'il y ait du mouvement en 2019, évidemment.
Le mercato est engagé. Je ne suis pas certain qu'il...
C'est 1er août, on ne peut rien dire avant le 1er août.
Pile, je suis pas certain que tu ne te retrouves pas à la télévision pour commenter les châteaux et les monuments.
Oui, c'est vrai qu'il est bon là-dedans, dans cet exercice.
Certains tremblent.
Bon. C'est le plus cultivé, le plus érudit de nous tous, évidemment.
Et comme tu es breton, tu remplacerais Jean-Paul Olivier.
Il y a déjà trouvé,
voilà. Alors là, je vois des hélicos, messieurs, sur le bord de la route. Je regarde si Yann Pécheral est pas très loin.
Ah oui, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, pour tromper sa sieste, Yann Pécheral a donc décidé d'aller faire de l'hélico. Il paraît qu'il n'était pas très fier tout à l'heure, Pierre-Yves, au départ, juste avant de monter dans l'hélico.
Parce que Yann Pécheral n'a jamais fait d'hélico de sa vie, donc évidemment c'est du stress pour lui, et il était persuadé qu'en cas de danger il y avait un siège éjectable, donc on a essayé de lui expliquer que c'était pas possible, mais il était vraiment très inquiet, effectivement.
Bon, on lui souhaite bon courage, évidemment. Il nous survole là en ce moment, il survole la course, il se régale, il s'en met plein les yeux, même si ça va l'empêcher de faire sa sieste habituelle et quotidienne. Très bien, 14h40, on revient dans un instant sur la route du Tour de France. Il y a encore pas mal de kilomètres à parcourir avant l'arrivée tout à l'heure à Pau. Et on vous rappelle qu'il y a donc 5 hommes en tête, dont le français Thomas Bouda. La formation Direct Energy, il continue de creuser l'écart. Désormais 1 minute 32 pour ces 5-là. A tout de suite.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Pour la 18e étape de ce Tour de France aujourd'hui, petit intermède dans la plaine avant le retour dans les montagnes demain pour la dernière étape pour les grimpeurs, sans doute décisive, même si le classement du Tour de France est désormais bien décanté, avec un maillot jaune solidement accroché sur les épaules de Geraint Thomas, qui est donc le leader de ce Tour de France avec désormais 1 minute 59 d'avance sur son nouveau dauphin, un certain Tom Dumoulin. On va revenir sur l'étape d'hier, c'était donc précédemment dans le Tour de France.
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Le Suisse Sylvain Dillier, deuxième de Paris-Roubaix, qui est encore là au pied de la deuxième difficulté de la journée. Il a mis gaz pour rester au contact du groupe maillot jaune dans l'ascension de Peyragudes, et au pied de la deuxième difficulté de la journée, le col de Val-d'Oron-Azay, effectivement, Sylvain Dillier qui vient hausser le ton, hausser l'allure. Les Sky sont désormais en deuxième rideau.
Dan Martin passe à l'attaque, Fred. Dan Martin, qui était annoncé tout à l'heure par Jérôme Coppel,
qui se dresse
avec Quintana dans sa roue, Fred.
Et c'est effectivement Dan Martin, l'Irlandais, le vainqueur de l'étape de Mur de Bretagne, qui avait déjà remporté une étape dans les Pyrénées il y a quelques années, à l'époque où il portait le maillot de l'équipe américaine Garmin. Le voilà, le premier attaquant parmi les outsiders. Dan Martin qui emmène dans sa roue Nairo Quintana. Vous le voyez, les Movistar ont décidé de sortir l'artillerie aujourd'hui, avec Valverde devant, avec Soler en équipier modèle, et Quintana qui saute dans la roue. Dumoulin attaque sur la droite de la route. Dumoulin en danseuse, qui au moment où Egan Bernal reprenait son tempo en met une, le troisième du classement général, qui a peut-être cru que Christopher Froome, à l'arrière de ce groupe maillot jaune, était en difficulté.
Froome est lâché, effectivement. Là, cette fois, il y a une cinquantaine de mètres. Ils sont quatre à réussir à tenir sur cette attaque de Tom Dumoulin. Geraint Thomas est dans sa roue, mais ça y est, il a cassé. Il y a un petit écart. Geraint Thomas est en train d'aller consolider son maillot jaune, très certainement.
La victoire de Nairo Quintana, c'est Dan Martin qui s'arrache pour aller décrocher la deuxième place dans quelques instants. C'est fait pour Dan Martin qui arrive avec un retard de 29 secondes.
RMC, Intégral Tour.
La victoire de Nairo Quintana qu'on évoquait tout à l'heure et les grandes manœuvres derrière avec donc la principale information du jour, à savoir la défaillance de Christopher Froome qui a priori Fred ne devrait plus être en mesure de pouvoir remporter le Tour de France, lui qui a perdu sa place de dauphin hier et qui est désormais troisième au classement général avec un retard de 2 minutes 31 sur son coéquipier et désormais leader de la formation Sky, Geraint Thomas, car Froome après la course fait acte d'allégeance à Thomas en déclarant qu'il était le meilleur sur son Tour de France, le meilleur de la formation Sky et probablement le meilleur du peloton.
Oui, nous l'avions un petit peu deviné, subodoré, cette supériorité de Geraint Thomas dès la deuxième étape des Alpes vers La Rosière. Vous vous souvenez de ce coup de force de Geraint Thomas qui avait accompagné Tom Dumoulin dans le final de cette étape très très excitante. Geraint Thomas qui avait attaqué dans le dernier kilomètre lorsqu'il avait vu revenir de l'arrière son coéquipier Christopher Froome. Il était allé s'imposer, Geraint Thomas remportait sa première victoire d'étape sur le Tour 2018, plantant un coup de poignard dans le dos de Dumoulin et dans le dos de son compatriote Christopher Froome. Le lendemain, il avait remis ça en remportant l'étape de l'Alpe d'Huez. Il semblait voltiger, Geraint Thomas, le Gallois âgé de 32 ans, situation confirmée dans les Pyrénées, impression visuelle alpestre confirmé dans le deuxième massif montagneux de ce Tour 2018. Geraint Thomas semble imprenable aujourd'hui, de loin, de près. Il est parfaitement entouré par une équipe Sky rompue à ses efforts de protection, presque de garde du corps. Il y a là une expertise made in Sky qui sert les dessins de Geraint Thomas cette année. Geraint Thomas, vainqueur du critérium du Dauphiné, qui peut-être à cause de la participation de Christopher Froome au Giro. On rappelle que Froome avait remporté le Tour d'Italie au mois de mai dernier. Peut-être également à cause de ce qu'a vécu Christopher Froome à cause de son contrôle anormal au salbutamol sur le Tour d'Espagne l'an passé. Toute cette ambiance, tous ces doutes, toutes ces discussions autour de Christopher Froome, et bien Thomas est au-dessus du Britannique né au Kenya. Christopher Froome a dû effectivement passer la main en tête au sommet de cette équipe Sky. Il est troisième du classement général, tu l'as dit Christophe. Christopher Froome qui pointe à 32 secondes exactement du deuxième Tom Dumoulin, mais qui reste sous la menace d'un certain Primoz Roglic, le Slovène, quatrième du classement général, qui demain en direction de la Reims via notamment l'école d'Aspin du Tourmalet et de l'Aubisque via le Soulor pourrait jouer son va-tout. Le Slovène Primoz Roglic qui a vu que Christopher Froome n'était pas au mieux hier en direction du col du Portet. Pas dit que tout se règle dans le contre-la-montre de samedi. Il reste une sacrée étape de montagne dans les Pyrénées demain.
Alors, est-ce que Geraint Thomas, Cyril, est assuré de remporter le Tour de France? Fred le disait, il reste deux étapes clés, celle de demain, dernière étape de montagne, et puis samedi, le contre-la-montre. Geraint Thomas, qui est un très bon rouleur, puisqu'il a été, on le rappelle, champion olympique de poursuite par équipe. Mais attention, parce que Tom Dumoulin est encore un cran au-dessus. Lui, il est le champion du monde de la spécialité en titre. Un garçon donc qui est parfaitement rompu à cet exercice du chrono et qui devrait reprendre quelques secondes. De là à reprendre 1 minute 59, ça paraît quand même un peu beaucoup, Cyril.
C'est bien la problématique. Et puis, sur ce qu'on a vu depuis le départ de ce tour, Geraint Thomas n'a jamais été mis en difficulté. On l'a jamais senti fébrile. On l'a jamais vu même donner le moindre signe. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très expressif, mais aucun signe qui puisse dire il va peut-être marquer le pas. S'il continue sur la trajectoire où il est depuis un peu plus de 15 jours, je ne vois pas où on pourrait le mettre en difficulté dans l'étape de montagne demain. Et je ne vois pas Tom Dumoulin, malgré ses qualités intrinsèques de rouleur supérieur à celle de Geraint Thomas, reprendre 1 minute 59, c'est quand même beaucoup sur un homme qui a le maillot jaune sur les épaules. Et dites-vous bien une chose, un maillot jaune sur les épaules, quand vous jouez la gagne du Tour, vous avez un petit cran au-dessus de votre niveau normal.
Un supplément d'âme. Rappelons que Tom Dumoulin est le champion du monde en titre du contre-la-montre. 1 minute 59 sur ce contre-la-montre long d'un peu plus de 30 kilomètres. Voilà, 35 kilomètres très exactement sur les routes du Pays Basque. Ça devrait suffire a priori pour Geraint Thomas qui, on l'a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, est dans la forme de sa vie, le Gallois.
Du coup, eh bien, il va falloir, si Tom Dumoulin veut encore espérer décrocher et remporter ce Tour de France, il va lui falloir passer à l'attaque demain dans la dernière étape de montagne. Jérôme Coppel nous a rejoint après un petit voyage. Tu as perdu ton équipier qui est dans les airs, ça va? Voilà. Il n'était pas trop stressé?
Non, il m'a lâché lâchement pour aller faire un tour d'hélicoptère, ce vénard.
Il est très hélicoptère, hein, Yann Pécheral. On peut en parler maintenant qu'il est dans les airs.
Qu'il nous écoute pas. Très, très hélico. Jérôme, Tom Dumoulin, donc on le disait, 1,59, ça paraît un écart rédhibitoire pour le rattraper uniquement dans le contre-la-montre. En revanche, il pourrait essayer de s'en rapprocher demain, même si on a vu que Geraint Thomas, jusque-là, était imprenable sur tous les terrains qu'il soit.
Ouais, c'est ça. Puis il a une équipe très forte, Geraint Thomas. Donc voilà, pour l'instant, il montre pas de signe de faiblesse. Mais si Dumoulin veut gagner le tour, faudra que soit il passe un petit coup à l'attaque demain ou que Geraint Thomas
revienne à une minute.
Une minute, je pense que c'est jouable encore pour lui. Si Geraint Thomas prend un petit coup demain, ça voudrait dire que sa forme est moins bonne. Donc sur un chrono de 30 bornes, on sait que Tom Dumoulin est capable de faire de gros écarts. Donc là, ça peut devenir jouable. Maintenant, est-ce qu'il va prendre le risque? Il est deuxième du tour. C'est ça. Il joue son premier podium sur le Tour de France. Donc, est-ce qu'il va prendre le risque de faire ça? Est-ce que son équipe vont le laisser prendre le risque? C'est autre chose. Et voilà, peut-être qu'il va faire deuxième du Giro derrière Christopher Froome, mais deuxième du tour derrière Geraint Thomas, deux fois battu par Descai. C'est une super saison, mais c'est deuxième. Donc, c'est
le pouls leader batave, Tom Dumoulin, même s'il a déjà remporté le Tour d'Italie l'an dernier. Tom Dumoulin, qui est un sacré coureur et qui d'ailleurs a annoncé hier que la saison prochaine, il se concentrerait sur le Tour de France et qu'il ne disputerait pas le Tour d'Italie. Donc attention à lui la saison prochaine. C'est encore un jeune coureur, il a moins de 30 ans évidemment, donc beaucoup plus jeune que Thomas, que Froome, même s'il aura une redoutable adversité avec les jeunes qui pointent le bout de leur nez, et notamment Bernal. La moto RMC, Pierre-Yves Leroux est toujours là. Pierre-Yves, à l'avant de la course, toujours avec les 5 hommes de tête.
Ah, ils sont juste derrière nous, à une trentaine de mètres, et je peux vous dire que ça envoie. On est entre 50 et 55 km heure, mais quand vous avez dans un groupe de vainqueurs de Paris-Roubaix un pistard, là c'est Niki Terpstra qui était en train d'emmener à l'instant, qui se relève, qui va se mettre à l'arrière du groupe, bah évidemment on atteint des vitesses assez incroyables, mais il n'est pas certain que ça soit la bonne échappée, parce qu'il y a une minute quinze à l'instant, le peloton pour l'instant ne s'est pas relevé, n'a pas décidé que c'était forcément la bonne échappée avec ses 5 hommes devant. Donc tout n'est pas encore dit, tout n'est pas encore fait. Après 42 km sur cette étape, nous entrons dans le village de Maubourguet.
Parfait, 128 km 500 de l'arrivée, j'ai des nouvelles qui nous arrivent de l'hélicoptère. Tout va bien pour l'instant pour Yann Pécheral, qui a posé le pied à terre et qui est en train de déguster un bon repas sur les bords de la route. Tout va bien, les vacances continuent pour notre ami Yann et on l'embrasse. On espère le retrouver avant l'arrivée tout à l'heure. Il sera tout à l'heure avec sa HF sur le dos pour essayer de récolter les réaction des coureurs du peloton. On se quitte quelques instants, on laisse passer les infos de 15h et on revient le plus rapidement possible sur les routes de la 18e étape de la Grande Boucle. À tout à l'heure.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.